Vous attendez un bébé, vous allez bientôt le mettre au monde. J'ai créé pour vous le guide parfait, un e-book à télécharger où je vous transmets les informations essentielles pour vous préparer à vivre ce moment dans la puissance et en conscience. Dans cette ressource à télécharger, j'évoque avec vous toutes les étapes de la mise au monde, mais aussi les états de conscience que vous allez traverser, les hormones qui sont en jeu. On parle de la douleur, des besoins, de la femme qui enfante, du bébé qui naît, et la place du père ou du coparent. Et dans ce guide très pratique qui va à l'essentiel, je vous donne un max d'outils à piocher, des petites choses simples pour accompagner les vagues, les contractions, vous créer une bulle intime et sécure, vous amener à vous relaxer entre les contractions et calmer une éventuelle angoisse. C'est aussi un guide pour vous amener à créer votre projet de naissance, puisque je vous mets deux templates inclus. Vous n'avez plus qu'à les personnaliser et les transmettre aux personnes qui vous accompagneront le jour J. Je vous mets en bonus une playlist que j'ai créée spécialement pour vous. Bref, ce sont des ressources que je partage en accompagnement, que je vous ai synthétisées dans un e-book de 22 pages au tarif de 20€, dans le but de vous apporter les informations essentielles et surtout de vous donner la pleine confiance pour le jour J. Je vous ai mis le lien du guide à télécharger dans la description de cet épisode. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la douleur de l'accouchement. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais je n'ai pas fait d'épisode vraiment autour de cette notion de douleur, et qui n'est pas des moindres comme notion, parce que dans les accompagnements que je fais pendant la grossesse, c'est vraiment une question qui revient quasi systématiquement. Donc il était vraiment temps que je parle de ça. Ça fait partie des principales inquiétudes des femmes enceintes. Comment je vais gérer la douleur de l'accouchement? Et je crois que c'est vraiment important de bien se pencher sur cette notion-là. Peu importe votre projet, finalement, que vous ayez le projet d'accoucher sans péridurale ou avec, parce que la péridurale ne règle pas tout et n'est pas systématique. Et oui, il y a des péridurales qu'on ne peut pas poser tout de suite, hein, enfin, très souvent, même quand on a ce projet de péridurale et qu'on l'a, il y a quand même tout un temps où on n'a pas de péridurale et on fait face aux contractions sans cette analgésie. Donc si on n'est pas du tout informé et qu'on ne comprend pas le processus et qu'on se laisse prendre par ces sensations, on peut mal le vivre et du coup sauter sur la péridurale comme le Messie Saint-Sauveur, alors qu'au final on peut aussi être actrice même dans ces conditions-là. Il y a aussi des situations où on ne peut pas poser la péridurale, où c'est pas possible. Par exemple, si vous avez un taux de plaquettes dans votre sang qui est trop bas, bah là on peut pas poser la péridurale. Parfois la péridurale est posée mais elle ne fait pas bien effet ou que d'un côté. Et là je parle vraiment des douleurs liées aux contractions, liées vraiment à l'accouchement lui-même et non pas la douleur liée à la pose de la péridurale, aux conséquences de la médicalisation qui sont bien réelles. Il n'y a pas que les contractions qui peuvent être douloureuses le jour de l'accouchement, prenez-en bonne note. Et les femmes qui ont déjà accouché savent de quoi je parle, je pense. Donc là on parle vraiment de ce qu'on appelle dans le jargon médical la douleur liée au travail de l'accouchement. Et bien évidemment, si vous avez l'intention de ne pas prendre la péridurale et d'accoucher de façon physiologique, c'est important de venir travailler cette notion de douleur. Alors, je tiens d'abord à partager deux prémices, deux postulats que j'ai découvert non pas en devenant maman et en accouchant, mais que j'ai découvert en me formant et aujourd'hui qui me semble absolument évident, mais que je vais vous poser ici. Tout d'abord, le corps humain n'est pas capable de créer la douleur qu'il ne sait pas gérer. Ça paraît logique. Le corps, il n'est pas conçu pour se créer des choses qu'il ne peut pas gérer. Et quand, par exemple, on se blesse de manière grave, bah, quand la douleur est trop intense ou que l'événement est trop intense, on se coupe et on tombe dans les pommes. On est censé rester en conscience le jour de l'accouchement, mais pas dans un état de conscience ordinaire, dans un état de conscience modifié, mais quand même là, on n'est pas censé être endormi. Et dans les années 70, il y a eu un mouvement où les femmes ont été endormies de façon complète en anesthésie générale le jour de leur accouchement. Bon, je vais pas parler de ça, mais en tout cas, c'est important de savoir que le corps n'est pas conçu pour créer une douleur qu'il ne sait pas, à laquelle il ne sait pas faire face. Et ça, je parle vraiment dans le processus physiologique. Il y a des situations rares où, notamment, le bébé se place d'une certaine façon où, franchement, la douleur est presque inhumaine, mais ça, c'est rare. Et je ne parle pas non plus de la douleur liée au déclenchement, parce que quand on est déclenché pour l'accouchement, ce n'est pas les hormones du corps qui vont susciter les contractions utérines, ce sont des hormones chimiques. Et donc là, comme ce n'est pas le corps qui gère, par définition, ce ne sont pas des douleurs qui sont humaines, mais dans le sens propre du terme. Donc, c'est beaucoup moins difficile à comprendre pour le corps qu'est-ce que c'est que cette douleur qui me tombe dessus, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, et donc le corps a beaucoup plus de mal à gérer cette douleur. Deuxième postulat, deuxième prémisse, ce qui rend la douleur insupportable, c'est la peur. Et oui, quand on comprend que on n'est pas censé créer une douleur qu'on ne sait pas surmonter, alors que on sait que beaucoup de femmes peuvent dire « non, c'était vraiment insupportable », il me semble, aujourd'hui, en ayant accompagné beaucoup de mamans, en ayant accouché 3 fois, que ce qui rend cette douleur insurmontable, insupportable et qui nous donne la sensation qu'on ne peut pas la gérer, ça va être la peur. J'ai 2 façons d'expliquer ce phénomène-là. Tout d'abord, je vais vous parler de notre cerveau. Nous avons, je schématise, hein, j'ai un bac L, hein, je ne vais pas vous faire un cours scientifique très très poussé, ça dit c'est quand même très très intéressant. On a 2 cerveaux. On a le cerveau néocortex, qui est celui qu'on connaît très très bien, le plus gros sur le cerveau humain. C'est le cerveau qui s'occupe de la réflexion, de l'organisation, de la pensée rationnelle. C'est clairement ce cerveau-là qui me permet d'organiser ce podcast, de réfléchir à comment je vais l'expliquer, vous le transmettre, etc. Donc c'est vraiment ce cerveau d'organisation, d'apprentissage qu'on connaît absolument bien et qui fait l'essentiel, je pense, de notre travail conscient aujourd'hui en 2021. Donc celui qu'on connaît le mieux. On a un autre cerveau qui est le cerveau reptilien, le cerveau archaïque, qui est commun à tous les mammifères. Et c'est ce cerveau-là qui nous fait accoucher. Ce cerveau-là, il nous sert aussi à digérer, à dormir. En somme, à réaliser tous ces processus physiologiques essentiels à notre survie. Donc c'est quand même un cerveau hyper intelligent, mais on ne le fait pas travailler en conscience. Dans cette conscience volontaire, j'entends. Or, la peur. Quand on a peur le jour de l'accouchement. Qui a peur? Quel cerveau a peur? Est-ce que c'est le cerveau reptilien ou le néocortex? Eh bien, je pense que vous connaissez la réponse. Le cerveau reptilien, lui, il sait. Il sait comment accoucher. Il sait complètement ce qu'il faut faire. C'est un réflexe, en fait. L'accouchement est un réflexe. Tout comme dormir. Est-ce qu'on a besoin de stresser avant de s'endormir pour savoir si on est capable de dormir? Non. Or, la peur, les pensées incessantes nous empêchent de dormir. Bah, l'accouchement, c'est pareil. Donc ce qui va créer la peur, ça va être le cerveau pensant, néocortex, parce qu'on va faire des projections. Et si ça se passe comme ça? Et si j'y arrive pas? Et si cette contraction-là, elle est insurmontable? Et si ça met 12 heures de plus? Et si... Et voilà. Ça fait peur, et ça fait mal. Parce que le cerveau néocortex empêche le cerveau reptilien de faire son travail correctement. En fait, les cerveaux sont pas incompatibles, mais plus l'un prend de la place, et moins l'autre en prend. On remarque bien que quand on dort dans un sommeil profond, on n'est pas en capacité de faire des grandes réflexions philosophiques, quoique, mais pas de l'ordre de la pensée consciente. Et inversement, quand on est en train de ressasser nos problèmes, on a du mal à dormir. Bah, l'accouchement, c'est pareil. Je peux aussi expliquer ça grâce aux hormones. Il y a une hormone dont je parle à peu près tout le temps dans les épisodes de podcast en lien avec la grossesse et l'accouchement, c'est l'ocytocine. On a beaucoup d'autres hormones qui rentrent en jeu le jour de l'accouchement, hein. Mais là je vais vous parler vraiment de cette hormone-là parce qu'elle est prépondérante au sujet de la douleur. L'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée par notre cerveau le jour de l'accouchement notamment, pour créer des contractions au niveau des fibres musculaires de l'utérus, qui appuie donc sur le bébé pour que lui-même appuie sur le col de l'utérus, l'ouvre et du coup qui sorte. Donc c'est une hormone pulsatile qui va générer des contractions musculaires. Une contraction utérine, c'est la même chose qu'une contraction quand on, on contracte notre biceps. Je suis en train d'essayer de le faire là en vous parlant, mais ils sont pas très développés, donc c'est pas très parlant. Trêve de plaisanterie, même si c'était pas vraiment une plaisanterie, je n'ai pas des gros biceps. Bref, l'ocytocine, c'est une hormone naturelle de l'accouchement qui va être sécrétée en quantité parfaite si on laisse le cerveau reptilien faire son job. Or, il y a une hormone antinomique avec l'ocytocine, tout comme il y a un bout du cerveau qui est antinomique avec le cerveau archaïque, c'est le cerveau néocortex, il y a une hormone qui va empêcher l'ocytocine de faire son job et d'être sécrétée correctement, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ça, ça s'explique, en fait le corps est tellement bien fait. Prenons l'exemple des femmes qui habitent actuellement en Afghanistan. Eh bien le cortisol lié à la peur est là pour dire au corps « Non, c'est pas le moment de mettre au monde un bébé, c'est pas sécure. » Donc c'est génial en fait. Le corps, il pense à tout, tout seul. Mais quand c'est une situation où on est safe, on est dans un environnement propice. Et je... Petite aparté, je dis pas que le milieu hospitalier est toujours l'endroit le plus safe pour accoucher. Et parfois, c'est aussi cette insécurité liée à l'environnement hospitalier qui ne respecte pas les besoins de la femme qui accouche, qui peut générer du cortisol et donc empêcher d'accoucher. Hein. Petite réflexion à mener aussi autour de ça. Mais voilà, quand on sécrète du cortisol en trop grande quantité, bah du coup, on fait du surplace. Il y a des contractions, mais elles ne sont pas efficaces parce qu'il n'y a pas assez d'ocytocine pour faire un travail vraiment concluant. Donc les peurs empêchent d'accoucher. À mon sens, aujourd'hui, il y a deux raisons principales qui font que on a peur de la douleur et que qu'on a peur de la douleur et que la peur va prendre le pas sur la douleur. C'est d'abord le manque d'informations sur la physiologie de l'accouchement. On n'est pas assez informé, que ce soit les femmes, les couples et même les soignants. En fait, dans le cursus de formation des gynécologues et des sages-femmes, il n'y a pas forcément tout ce que je sais aujourd'hui, moi, sur la physiologie. Et ça, je trouve ça aberrant, en fait. Que quand on va à l'hôpital pour accoucher, les personnes qui vont nous accompagner n'ont pas forcément toute la connaissance sur la physiologie de la naissance. Et ça, c'est une réalité. Et pour avoir toutes ces connaissances, ça demande aux soignants d'aller chercher plus loin que ce qu'on leur transmet en formation. En formation, ils apprennent à être des techniciens médicaux de la naissance. Or, le processus physiologique de la naissance, dans 85-90% des cas, ce n'est pas du médical. C'est une surveillance médicale, on est bien d'accord, mais l'accompagnement avant tout de la physiologie de la naissance, c'est du soutien. Et pour pouvoir soutenir correctement, ça demande à comprendre le processus de la peur, de la douleur, les étapes de l'enfantement dans sa physiologie et comment faire pour que la femme sécrète ses bonnes hormones et donc s'autorise à lâcher ses peurs et à enfanter de façon physiologique tout simplement. Quoi. Et même quand il y a une volonté d'avoir un accouchement médicalisé, ce qui doit rester un choix, eh bien on devrait avoir des réflexes qui permettent de continuer tant que faire se peut à préserver cette bulle la plus naturelle possible autour de la naissance et la plus favorable en fait, la plus respectée pour que la femme se sente le mieux possible, le couple se sente le mieux possible et que tout se déroule de la façon la plus logique possible en fait. Ça paraît évident. Donc ouais, le manque d'information, pour moi, c'est vraiment la base en tout cas du côté du couple parce que bah, une femme qui n'est pas informée des processus, de toutes les étapes qu'elle va traverser potentiellement, bah, qu'est-ce qui va se passer? Son cerveau néocortex, le jour où elle va accoucher, il va être en train de se dire « Putain, qu'est-ce qui m'arrive ?» Parce que ce qui nous arrive, en fait, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas avant d'avoir accouché. Ça, c'est sûr, on n'a pas vécu des trucs qui ressemblent à ça. On est rarement dans un état animal, mammifère, avec une intensité aussi puissante. Et donc, ça prend de court quand on n'est pas informé. Quand on est informé à la baby-boom, où on voit des accouchements archi-médicalisés, et qu'on croit que ça va être comme ça tout le temps, et qu'on va être prise en charge, bah, en fait, on se fait prendre de court, mais d'une violence incroyable. Et du coup, on n'est pas capable de gérer. Enfin, on croit qu'on n'est pas capable, on n'est pas au courant. On n'a pas l'info que nos cellules savent accoucher. Et donc du coup, ben, on est à la merci de tout et n'importe quoi. Et on se laisse prendre par la peur liée à la douleur et on rentre dans un scénario très douloureux en fait. Très douloureux physiquement et surtout psychiquement. Et pour les coparents aussi, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, l'accompagnant à la naissance, donc le deuxième parent, quand il comprend pas non plus que c'est un état archaïque qu'une femme qui crie n'a pas forcément besoin d'être sauvée, mais qu'elle a besoin d'être accompagnée. Que si elle crie, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a mal. Ça veut dire qu'elle a besoin de soutien, que c'est puissant. Et parfois, elle peut être dans ses peurs et qu'il y a des choses à faire pour la faire retomber dans un climat de confiance et de physiologie. S'il n'a pas toutes ces infos, il ne peut pas les deviner. Et donc du coup, lui aussi, il a peur. Et pour un homme, voir sa femme souffrir, c'est compliqué. Donc tout de suite, vite, il faut la sauver, s'il vous plaît, docteur. Et ouais, mais il y a peut-être des étapes à comprendre pour accompagner cette douleur-là, en plus du médical. Et donc, le deuxième élément, j'y suis déjà venue, mais l'incompatibilité entre le processus de l'accouchement et ses besoins et le milieu hospitalier. Donc, incompatibilité, je mesure un peu mes propos parce que il y a des possibilités d'adapter d'un côté et de l'autre pour créer des conditions favorables, mais ça demande à travailler, en fait. Ça demande à questionner les sages-femmes, les protocoles de cette maternité-là, de comparer avec les maternités autour de vous, de voir s'il y a des alternatives, quels sont vos souhaits, en fait, et quelles sont les possibilités, près de chez vous ou pas. Vous pouvez aussi aller faire de la route, et je dis ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça d'options d'accompagnement de la physiologie de manière optimale en France. Parfois, il faut faire un peu beaucoup de kilomètres, malheureusement. J'espère que ça va changer, ça, mais aujourd'hui, pour les personnes qui veulent une naissance respectée dans sa physiologie, je leur dis, faites un choix. Soit vous prenez, on va dire, le moins pire autour de chez vous, soit vous avez de la chance et il y a vraiment des accompagnements hyper en phase avec ce que vous souhaitez, il faut avoir beaucoup de chance, soit vous faites des kilomètres. À mon sens, pour travailler ces peurs liées à la douleur de l'accouchement et travailler tout simplement les clés de compréhension et les outils pour accompagner la naissance de façon la plus physiologique, la plus respectée, la plus bénéfique, avec une issue la plus favorable possible, il y a 4 axes à creuser. Tout d'abord, vous informer. Voilà, si vous êtes enceinte, si vous êtes futur papa, futur coparent, c'est de vous informer. Donc, participez à mon atelier autour de l'accouchement. J'en fais un tous les mois à Vannes, tous les premiers samedis du mois. Je peux le faire à distance aussi pour les couples qui ne sont pas à côté ou qui ne sont pas disponibles le samedi. On peut le faire en individuel sur un autre créneau. Donc c'est un atelier qui dure 3 heures où je transmets, je bombarde en fait. Je donne tout ce que j'ai, tout ce que je connais. C'est vraiment de l'info en fait sur le processus de l'accouchement. De quoi a besoin une femme qui accouche. Je donne plein d'outils au papa, aux coparents pour qu'il ait un bagage concret pour être présent le jour J. Je donne aussi des outils pour créer le projet de naissance et transmettre vos souhaits à la maternité, échanger avec la maternité, être dans la rondeur, dans l'échange, dans le lien. Pour vous informer, vous avez aussi la préparation à la naissance et ça, moi mon atelier se substitue absolument pas à une préparation à la naissance, c'est même très très différent. Moi je suis là vraiment pour donner de l'info sur 3 heures sur le processus physiologique de la naissance et des outils pour l'accompagner, mais on fait pas beaucoup de concret, on n'a pas le temps en 3 heures clairement, donc la séance de préparation à la naissance s'est étalée sur plusieurs séances et là vous allez dans le concret, vous allez dans la pratique et c'est fait avec des sages-femmes qui ont l'œil médical que moi je n'ai pas, donc vraiment allez-y, en plus c'est remboursé, donc il faut absolument la faire. Que ce soit votre premier, votre cinquième enfant, vraiment faites-le quoi, c'est du temps pour vous, c'est de l'échange avec, les soignants, c'est des nouvelles pratiques aussi que vous pouvez découvrir parce qu'il y a plein de façons de vivre cette préparation à la naissance. Informez-vous autour de chez vous sur ce qui est possible. Vous avez aussi des préparations virtuelles. Je pense notamment à Quantique Mama qui a plusieurs préparations virtuelles à la naissance. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a transmis beaucoup d'informations sur la physiologie de la naissance. Donc allez-y les yeux fermés. Vous avez aussi la préparation de Julie Bonapace sur internet disponible. Et vous pouvez lire des livres. Regardez des comptes Instagram qui transmettent pas mal d'infos, dont le mien, mais plein d'autres. Bref, il y a plein de façons de s'informer. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus d'infos qu'il y a 10 ans. Il y a eu un boom au niveau de l'information et profitez-en, quoi. Cela dit, je pondère un peu mes propos. Si vous pensez que vous êtes OK, c'est pas la peine de se faire une surcharge d'infos. C'est pas en consommant de l'information, à tire-larigot, que... on devient vraiment au clair avec tout ça. Parce que il y a l'info, mais il y a aussi ce qu'on en fait. Donc dans l'info, deuxième point qui a travaillé pour moi, c'est pas juste l'info théorique, c'est aussi des infos pratiques sur des points d'acupression, des massages, des fleurs de Bac, des respirations, des sons qui peuvent venir accompagner et renforcer l'efficacité des contractions, soulager la douleur, apporter de la relaxation entre les contractions qui va permettre de bien s'oxygéner et donc mieux repartir sur la contraction suivante, peut-être des méditations, des mantras. Des outils aussi pour accompagner la femme en cas de peur. Si elle va dans ses peurs le jour de l'accouchement, c'est pas une fatalité. Encore faut-il savoir détecter ce moment-là et aider la femme à se ramener dans un climat beaucoup plus propice à son accouchement. Donc les outils concrets, hyper importants. Et ça, bien sûr, c'est ce que j'apporte en atelier. Et en cours de prépa, vous en aurez aussi. Troisième axe, qui me semble vraiment, vraiment important aussi, c'est de venir travailler de façon individuelle sur vos propres points de fragilité. Un atelier et une séance de préparation à la naissance ne vont pas suffire. Là, on va vous donner du bagage, de l'info, des outils, de la pratique. Mais s'il y a des points à travailler, et il y en a forcément un petit peu, bon, parfois, hein, je vois des femmes qui sont totalement en confiance, soit parce qu'elles ont déjà accouché, qu'elles ont vu que ça avait fonctionné, soit qu'elles ont déjà fait un travail, soit que, voilà, tout est OK. Mais souvent, c'est le fruit d'un travail sur soi et d'aller questionner. Ok, pourquoi j'ai peur? À quoi ça vient faire écho? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et de venir dépasser, au moins prendre conscience et de venir aller travailler ces peurs-là. Et bien sûr, c'est ce que je fais en séance d'accompagnement. Donc, faut pas hésiter à franchir le seuil de la porte d'une accompagnante, d'une doula, de quelqu'un qui va venir vous aider à travailler ces peurs-là. Et que ce soit vous qui accouchez ou votre conjoint, votre conjointe, ça aussi c'est important, parce que pour les personnes qui accompagnent la naissance, si elles n'ont pas fait ce travail-là, bah c'est elles qui vont vivre de la peur, qui vont rester bloquées dedans et qui vont transmettre ça à la femme qui accouche, et c'est pas mieux, et c'est même pire en fait, j'ai envie de dire, parce que la femme va se faire polluer par les peurs de quelqu'un d'autre, alors qu'elle-même aurait peut-être pu si elle avait été accompagnée correctement. Donc c'est quand même dommage. L'idée c'est de venir travailler les peurs de l'un de l'autre, au moins pour être au clair et se dire ok, là je suis là, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour dépasser ça? C'est super important. Et quatrième axe à creuser à mon sens, c'est justement le choix de notre façon d'accoucher, du lieu d'accouchement, des personnes qui vont nous accompagner, et je sais que c'est hyper compliqué. Au sein du milieu hospitalier, on ne sait pas sur qui on va tomber le jour J, donc on y va un peu au petit bonheur la chance. Et bien dans ce cas, c'est d'être capable de créer sa bulle en autonomie maximum pour vivre son accouchement de la façon la plus choisie possible, la plus éclairée possible, en lien avec les équipes, en s'adaptant aux personnes qu'il y a, même si vous avez vos limites et on ne peut pas s'adapter à tout, je suis bien d'accord. N'empêche qu'il y a des choses à mettre en place pour être dans un climat le plus favorable possible, et ça c'est ce que je transmets aussi à l'atelier. Mais avant de trouver la structure la mieux pour vous, ça va vous demander un petit travail d'enquête, de discuter des protocoles, hein, comme je l'ai dit au cours de l'épisode, qui sont en vigueur dans les maternités autour de chez vous. Qu'est-ce qui se fait? Dans quelles limites kilométriques? Quelles sont vos possibilités à vous? Quelles sont vos propres limites? Est-ce que vous souhaitez accoucher en structure médicalisée en ayant le plus d'infos possible et en créant votre bulle? Est-ce que vous souhaitez avoir un accompagnement alternatif du type plateau technique, maison de naissance? Est-ce que vous souhaitez un accouchement à domicile? Etc. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser à deux. Ensuite, mener votre enquête et ensuite faire des choix. Et adopter une préparation en fonction de ces choix. Sachant que tout est en corrélation, on n'est pas obligé de faire le choix avant la prépa. Et j'aimerais même pouvoir vous dire, faites le choix vraiment le plus proche, parce que où que vous alliez, vous aurez l'accompagnement dans le respect de vos souhaits et dans... la possibilité d'être respecté quand il y a aussi une réalité médicale qui est là. Hein, l'idée, c'est aussi d'être accompagné de façon respectueuse quand il y a des complications médicales. On ne devrait pas choisir. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est qu'il y a des pôles qui vont être plus à même d'accompagner le processus médicalisé avec des besoins médicaux. Il y a des pôles où on est censé avoir un peu plus de physiologie, mais c'est pas forcément le cas. Ça dépend des protocoles, ça dépend des personnes qui travaillent dans la structure, du climat de l'équipe, de leur réalité à elles aussi, je dis elles, de ces personnes-là, hein, y a pas que des femmes, leur hiérarchie, etc. En fait, ça répond à des réalités qui sont bien au-delà des besoins de la femme qui accouche, et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Voilà, donc pour résumer, par rapport à la douleur de la naissance, enfin du travail de l'accouchement pour être plus précise, c'est une douleur qui est physiologique. Elle est là, cette douleur, en fait, je vous ai même pas dit pourquoi elle est là, cette douleur. Et c'est, en fait, c'est hyper important, c'est que la douleur liée à l'accouchement, elle est là pour nous accaparer. Elle n'est pas là pour nous dire « t'es malade, t'as attrapé un accident, c'est la fin du monde, vite, vite, vite de l'aide », comme la plupart des douleurs qu'on ressent, et c'est là qu'on peut vite faire une confusion. Cette douleur-là, elle est là pour nous accaparer, pour se mettre dans une bulle où il n'y a plus rien qui compte. Elle est là pour nous mettre dans un état de conscience altéré au plus haut point, pour qu'on soit vraiment concerné par ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que le nouveau-né humain, il est absolument dépendant de sa maman, à 100%. Quand il naît, il n'est pas capable de se mobiliser tout seul, de se déplacer tout seul, il n'est pas capable de réguler sa température, de se nourrir, de voir même, il ne voit pas. Donc il a besoin de sa maman, c'est un besoin absolument vital pour lui. Si on n'était pas accaparé d'une façon ou d'une autre, eh bien on pourrait ne pas se rendre compte qu'on accouche, et donc on abandonnerait nos enfants, c'est aussi simple que ça. Et donc on ne serait pas là aujourd'hui, je vous parle de ça depuis la nuit des temps en fait, ça se passe comme ça. Donc elle a un rôle qui est quand même hyper bien conçu. Je dis pas qu'il faut la subir, et justement, le but de cet épisode, c'est de vous dire que cette douleur-là, elle est physiologique. Il y a des tas de choses à comprendre de cette douleur-là qui vous permettront d'y faire face différemment, de faire un travail dessus, de l'aborder en mode, non pas mais qu'est-ce qui m'arrive, mais plutôt, ok, j'en suis là, waouh, c'est pas facile, ok, de quoi j'ai besoin. Et on se le dit pas consciemment, parce que quand on est dans la physiologie, le corps fait les choses tout seul. Mais il y arrive en fait, quand on est rassuré dans notre cerveau néocortex, le cerveau reptilien s'autorise. Et pour ça, ça demande à faire les choses de façon consciente en amont. Et donc comment venir travailler ces points-là, ça va être de participer à mon atelier sur l'accouchement, oui, 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 de choisir une préparation à la naissance qui vous convient, et d'avoir des discussions avec la sage-femme qui vous accompagne dans cette prépa, de faire des exercices pour vous familiariser avec des outils qui vous aideront à affronter la douleur le jour de l'accouchement, de venir travailler en individuel quelles sont vos potentielles peurs et comment venir les rendre un peu moins ancrées à l'intérieur de vous, et de choisir la meilleure façon d'accoucher ici maintenant 2021 dans vos possibilités. J'ajouterai pour terminer que la douleur, elle n'est pas systématique le jour d'un accouchement. La puissance, elle l'est. Quand on accouche, c'est hyper puissant. Parce que c'est le muscle le plus puissant de notre corps qui va prendre le relais. L'utérus, c'est hyper puissant. Donc c'est une puissance incroyable. Une puissance animale qui peut faire peur. Devenir un animal, bah ouais, ça peut faire peur pour un être humain. Ça se comprend tout à fait. Et c'est normal. Et ça, ça vient se travailler aussi. De l'image qu'on peut avoir de soi si on crie. Si on se chie dessus, bah ouais, faut dire les choses. Si on marche comme une guenon, si on insulte, ouais, ça c'est compliqué, hein, parce que le milieu hospitalier n'est pas forcément non plus propice à tout ça. Alors comment on fait pour s'autoriser à devenir cet animal-là ? Ça passe par l'information, encore une fois. Mais la douleur n'est pas forcément là. Je connais des femmes qui ont mis au monde leur bébé sans douleur. Si elles avaient attendu d'avoir mal, elles seraient restées chez elles. Et il y a même des naissances qui sont orgasmiques. C'est pas le sujet de l'épisode du jour, mais c'est un peu aussi pour déconstruire. Oui, la douleur, souvent, elle fait partie du processus, parce que les contractions des fibres musculaires de l'utérus, généralement, génèrent une douleur, mais la douleur, c'est une notion qui est très subjective. Et pour les femmes, qui soit sont naturellement dures au mal, soit ont fait un énorme travail pendant leur grossesse, en fin de grossesse particulièrement, sur leur peur, sur la souplesse de leur corps, sur leur bien-être global, sur leur ocytocine. Si elles ont fait un stock d'ocytocine en fin de grossesse et que du coup elles sont remontées à bloc pour le jour J, qu'elles sont en confiance, qu'elles ont trouvé des bons partenaires de naissance, que le conjoint il est bien informé, qu'il trouve sa place, bah ouais, ça peut ne pas être si douloureux que ça, clairement. Et juste pour vous parler en deux mots de mon expérience personnelle, et c'est marrant que je tourne cet épisode aujourd'hui parce que ma fille a eu 2 ans hier et du coup j'ai un peu revécu dans ma tête l'accouchement. J'ai accouché en 1h30. Je dis pas que j'ai pas eu mal. C'est vrai que j'ai eu mal. Ça a été douloureux. Mais cette douleur-là, j'en garde un souvenir assez positif parce que, en fait, la douleur a été très très vite et très intense. Donc oui, ça a été douloureux parce que j'ai pas eu de montée progressive. La première contraction que j'ai ressentie, elle a été très 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 violente en fait. Elle a été d'une puissance tellement forte qu'elle m'a vraiment pris de court. Donc ouais, ça a été douloureux, je vais pas vous mentir. Mais je me suis sentie en confiance, mon conjoint était là. Il n'y avait pas les enfants avec nous. On a fait la route, mais même dans la voiture, je savais que même si j'accouchais dans la voiture, en fait, tout se passerait bien. Parce que j'avais mon chéri qui était avec moi. Et puis de toute façon, si le bébé naissait, c'est qu'il était très probablement en bonne santé, que j'avais toutes les raisons de bien accoucher, parce que ma grossesse s'est bien passée, que mon dernier examen montrait que tout était ok. Et puis je suis arrivée à la maternité. J'avais une super sage-femme qui m'a attendue dans une pièce, dans la pénombre, qui respectait mes besoins. Bah en fait, la douleur, elle a été vachement supportable, vachement supportable. Après, j'ai été dans l'eau, ça m'a vraiment aidée. Et voilà, bah, j'ai accouché. Et puis c'était terminé, quoi. Hein, j'ai pas eu tant mal que ça. C'était très très intense, mais c'était court. J'avais eu mon quota de sommeil avant aussi. J'avais adopté des réflexes qui m'ont permis de prendre soin de moi avant l'accouchement, et ça a été une des clés aussi, prendre soin de moi et de mes besoins les plus stricts, les plus physiologiques, bien manger, bien dormir, être au calme, être dans le bien-être. Bah ça, ça m'a permis d'avoir une relation à la douleur qui était vachement différente de mes deux premiers accouchements. J'ai hâte d'avoir vos retours, sincèrement, sur cette notion de douleur. Je pense que vous avez peut-être appris des choses, parce que tout ça... Moi, il y a encore des choses que je vous ai transmises aujourd'hui, ça fait pas longtemps que je les sais. Au fur et à mesure de mes découvertes, des discussions que j'ai avec les femmes, avec les sages-femmes aussi, des formations que je fais, des informations que je vais écouter, que je vais lire, je découvre plein de trucs sur cette notion de douleur. Et si je peux vous partager une ressource, ce serait le livre de Maïté Trélaune. Je sais pas trop comment ça se prononce et si elle m'entend, si vous la connaissez, excusez-moi pour... si j'ai écorché son nom. Son ouvrage s'appelle « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» Bon, on ne peut plus être, on ne peut pas être plus clair. Et bah effectivement, hein, je ne vais pas vous faire un épilogue sur son ouvrage, ça va vraiment vous être utile. Il y a d'autres ouvrages qui sont géniaux, hein, comme bah, la BD de Lucille Gomez, hein, dont j'ai déjà parlé, « La naissance en BD », qui est absolument fabuleuse et qui parle de la notion de douleur. Vous avez aussi « Accoucher sans péridurale », d'Aurélie Surmélie. Même si vous ne savez pas si vous allez accoucher avec une péri ou si vous la voulez, lisez-le parce que en fait, ça va vous donner des informations hyper précieuses dans la même dynamique que ce que je vous ai dit au début de l'épisode. C'est que même si vous voulez la péridurale, vous ne l'aurez pas tout de suite et il y a peut-être des cas où vous ne pourrez pas l'avoir immédiatement, où elle ne fera pas bien effet, ou enfin que sais-je, c'est pas systématique. Donc allez lire ce bouquin aussi si vous avez envie de vous informer plus. Et ben voilà, les prépas virtuels, mon atelier, je pense que ça fait pas mal de ressources à votre disposition. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur cet épisode. Ciao.
Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsournaitre.fr. À bientôt.